Aujourd'hui, nous abordons l'affaire Buffet-Bontemps, du nom de ces deux détenus qui, un jour de septembre 1971, ont tenté de s'échapper de la prison de Clairvaux en prenant en otage une infirmière et un gardien. Après l'assaut, ils quitteront la prison, pieds et poings liés, la mort des deux otages sur la conscience. Un an plus tard, pour ces crimes, on leur coupera la tête. En 1971, la peine de mort n'est pas encore abolie. Certes, depuis l'arrivée de Georges Pompidou à l'Élysée, elle n'a pas été appliquée, mais elle menace encore chaque assassin qui passe devant une cour d'assises. L'affaire de Clairvaux change la donne, réveille l'opinion publique dans sa volonté d'appliquer la peine capitale pour les crimes de sang. Alors, durant des semaines, de l'instruction jusqu'à l'exécution de Buffet et de Bontemps, la guillotine s'invite dans les discussions familiales, au collège, au lycée, tout autant qu'à la une des journaux. Avocats, juges, bourreaux, prêtres, parents de victimes, parents d'assassins, tous prennent la parole et défendent leurs arguments autour de cette question prégnante et grave. Doit-on condamner à mort les assassins? Raconter le drame de la maison d'arrêt à Clairvaux, c'est peut-être et surtout parler de la prison, des conditions dans lesquelles les condamnés purgent leur peine, petite ou perpétuelle. Et de se demander aussi si la justice donne les moyens d'assumer les peines pour lesquelles elle condamne les hommes. Pour aborder cette histoire, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir en seconde partie Maître Thierry Lévy, avocat de Claude Buffet avant Clairvaux et jusqu'à ses derniers instants. En 1975, il a publié l'ouvrage « L'animal judiciaire » où il racontait le parcours de Buffet, de ses premières peines jusqu'à sa mort. Bonjour Thierry Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, à tout à l'heure. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry. Lecture Philippe Pierrard, programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Henri Bérec.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Parquet de la Cour d'appel de Paris, service central, deuxième bureau. Monsieur Thierry Lévy est appelé à se rendre le 28 novembre 1972 à partir de 4h à la maison d'arrêt de la Santé pour assister à l'exécution capitale du nommé Buffet Claude, condamné par la Cour d'assises de l'Aube le 29 juin 1972. Fait au parquet général le 27 novembre 1972, signé le procureur général.
Le 28 novembre 1972, à 4h du matin, muni de se laisser passer, quatre avocats, Thierry Lévy, Rémi Costre, puis Philippe Lemaire et Robert Badinter, entrent dans la prison de la Santé pour accompagner leurs clients vers le dernier acte de l'affaire de la prise d'otage de Clairvaux. La prison est encore endormie, silencieuse. Comme il est de coutume, on amène d'abord les avocats dans le bureau du directeur. Là, ils retrouvent les hommes de loi, greffiers, procureurs, avocats, et des hommes de foi, ceux que la justice charge d'accompagner les condamnés. À 5h moins le quart, après une discussion sur le déroulé de l'exécution, on fait appel les procès-verbaux, puis on donne l'ordre de marche à la délégation. Alors, sans un bruit, chaque porte s'ouvre. Après plusieurs minutes, le cortège s'arrête enfin devant deux cellules, la 1-34, celle de Roger Bontemps, et la 1-36, celle de Claude Buffet. C'est Roger Bontemps qui est le premier réveillé. On jette un regard dans l'œilleton, puis on ouvre la porte. Les surveillants entrent, suivis des deux avocats. Bontemps ouvre les yeux, surpris, mais il comprend que c'est pour aujourd'hui. Il s'assoit sur le bord de sa couche, écoute la lecture de l'acte d'exécution. Il se lève, se passe un peu d'eau sur le visage, s'habille, puis attend. Dans la cellule 1-36, c'est la même procédure. Claude Buffet se réveille, écoute, s'habille, se recoiffe et prend une cigarette qu'il avait préalablement posée sur le bord de sa tablette en bois. Dans cette cellule de 7 mètres carrés, il range les derniers vestiges de sa vie, ses lettres, ses peintures et des livres, dont le lit conjugal d'Alberto Moravia, qu'il n'a pas pu terminer. Au même moment, Bontemps quitte sa cellule, remonte le couloir, traverse la rotonde. Là, une table a été disposée avec du papier et un crayon pour écrire un dernier mot à ses parents. On le présente ensuite à l'abbé à qui il se confesse et dont il reçoit pour la dernière fois la communion. On lui propose un verre de cognac, puis les collaborateurs du bourreau le prennent en charge. En bleu de chauffe, gauloise à la bouche, l'exécuteur surveille ses aides de camp qui s'emparent du condamné. Il lui lève les jambes, lie ses chevilles et ligote ses bras derrière le dos. Il taille ensuite le col de sa chemise. Dans une galerie, sous une lumière jaunâtre, gardiens, officiels et civils attendent. Ils ne verront rien de la guillotine. Ils entendront juste un bruit sourd, puis un autre, plus mat, et puis les claques, claques de la planche qui bascule le corps décapité dans un réceptacle. Claude Buffet, lui, attend son tour, mais sans crainte. Il prend même le temps de savourer quelques bouffées d'un cigare qu'il avait parié avec l'un de ses avocats. Il voit l'aumônier, pris, communi. On l'attache, puis on le place derrière des draps noirs où se cache la guillotine. Là encore, un bruit sourd, mat. C'est évidemment la même procédure. Par deux fois, ce 28 novembre 1972, la guillotine a tranché la tête de deux condamnés en catimini, loin des regards. Une république qui tue est une république honteuse.
Mais tout de suite, une information qui nous parvient de Troyes, en France. Deux détenus de la maison centrale de Clairvaux, dans l'Aube, qui étaient soignés à l'infirmerie de l'établissement, ont brusquement sorti ce matin deux couteaux de fabrication artisanale et se sont assurés de la personne de l'infirmière qu'ils gardent comme otage. Ils exigent d'être entendus par le procureur de la République sur leurs conditions de détention. Je pense que dans nos inters de l'après-midi, nous aurons des détails plus précis sur ce qui s'est passé ce matin et ce qui se passe encore à Clairvaux.
Toute la journée, radio et télévision font vivre à distance la prise d'otages. Deux prisonniers, deux otages, quatre vies en suspens, dont celle de Claude Buffet, 44e des condamnés à perpétuité parmi les 500 détenus de la maison centrale de Clairvaux. Né en mai 1933 dans une famille modeste de Reims, Claude Buffet est un habitué des cours de justice, des interrogatoires, des prisons. Son premier séjour, il le doit à un vol de moto qu'il envoie pendant 6 mois derrière les barreaux à l'âge de 18 ans. À sa sortie, il s'engage dans la Légion, découvre l'Indochine, participe à la bataille de Dien Bien Phu, change de camp, puis revient parmi ses frères d'armes au képi blanc. En 1959, il claque la porte de la Légion, se marie, collectionne les petits boulots, puis déserte, de nouveau. Il quitte sa femme pour une maîtresse et fait de la chaparde une activité à plein temps qui le pousse une nouvelle fois en maison d'arrêt. La vie de Claude Buffet, c'est un éternel recommencement, une journée sans fin. Dès sa sortie, il recommence à voler. Mais le 18 janvier 1967, le théâtre de ses petits vols devient scène de crime. Au volant d'un taxi volé, il embarque avenue Mozart à Paris une femme, Madame Bezimensky. Pour lui voler son sac et ses bijoux, il l'amène dans un endroit calme au bout de Boulogne. Il sort son revolver, la menace, elle se débat. Un coup de feu éclate. Claude Buffet est devenu un assassin. Avant de prendre la fuite, et afin de diriger les enquêteurs sur la piste d'un maniaque sexuel, il déshabille la victime et lui enfonce un poudrier dans le vagin. Arrêté pour d'autres faits, Claude Buffet finit par avouer qu'il est l'auteur de ce crime. À son procès, il demande la mort pour lui-même. L'avocat général préfère l'envoyer pourrir dans la lente agonie de la réclusion perpétuelle, pour reprendre ses mots. Condamné à la réclusion à perpétuité, Buffet est envoyé à Clairvaux en juin 1971. C'est là qu'il rencontre Roger Bontemps, en atelier de travail et lors des promenades. Bontemps, comme lui, a été militaire, mais c'est un accident de moto qui l'éloigne des terrains de la guerre. De retour au civil, il sombre dans la petite délinquance. Un jour, il vole une voiture et braque un tabac. Pour un butin de 500 francs et pour l'agression du conducteur de la voiture, il est condamné à 20 ans de prison. En 1971, il entame sa cinquième année derrière les murs de Clairvaux. Ce 21 septembre, au petit matin, comme prévu, il retrouve Buffet à l'infirmerie. Qui a eu l'idée de s'évader ? À Clairvaux, les chemins vers la liberté, même éphémères, tentent chacun des détenus, évidemment. Un an plus tôt, on a compté 5 tentatives d'évasion, dont celle de Charlie Bauer, qui a essayé de s'enfuir par les égouts avec 4 autres détenus. Un prisonnier les a dénoncés, les gardiens les ont repérés. Après avoir tenté de les noyer, il les passe à tabac, comme il le raconte au micro de Pascal Riello dans l'émission « Là-bas, si j'y suis ».
Et là, ils étaient 80 matons avec des manches de pioche, des morceaux de câbles électriques, des câbles électriques de haute tension. Des fusils. Ils se sont mis sur deux haies comme ça. Ça faisait environ une vingtaine de mètres, une trentaine de mètres. Et ils nous ont passé au milieu de ces deux haies. enchaîné, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, enchaînées. Il me tenait à l'horizontale, alors qu'il me passait au milieu de cette haie de matraques, de gourdins, de crosses de fusil. Au bout de cette haie, là, eh bien, j'ai eu 4 côtes cassées, le muscle pectoral arraché. Ça n'a pas été un matraquage, ça a été un massacre. Un massacre. D'autant que ça s'est passé devant 600 détenus. Tous les détenus étaient aux fenêtres et hurlaient leur rage et leur haine.
Selon les autorités, Clairvaux est une prison modèle et moderne. Selon les condamnés, elle n'est que pagaille et sévice. Chaque détenu doit jouer avec les règles, celles des gardiens et de leurs humeurs, comme celles des prisonniers et de leur hiérarchie. En avril 1971, un détenu est même retrouvé mort. Oui, en prison aussi, on peut tuer. Malgré les faits et l'insécurité grandissante, l'administration ne change rien. 6 mois plus tard, le 21 septembre 1971, la sirène de la prison retentit. Quartier après quartier, chaque détenu est cloîtré dans sa cellule. Clairvaux est bouclé, dehors et dedans. À 8h, par téléphone, on prévient en effet le directeur de la prison que 2 détenus tiennent en otage une infirmière, Nicole Comte, et un gardien, Guy Girardeau. Grâce à une ligne interne, un lien est possible entre les détenus et les autorités. Alors, Claude Buffet fait état de ses doléances. Il demande la venue du procureur de Troyes, exige des armes, 2 voitures et 1 million d'anciens francs en liquide. En cas de refus ou de coup de force, il menace de couper les veines des otages. 2 heures plus tard, le procureur est sur place mais refuse de s'entretenir avec les détenus. Les négociations sont à la charge du directeur régional de l'administration pénitentiaire, Henri Le Tonneur. Les heures passent, les coups de fil se multiplient, chacun reste sur sa position. Barricadé derrière les portes de l'infirmerie, otage et mutin patiente. Espère-t-il vraiment s'enfuir ainsi ? Dans la nuit, dans les couloirs de la prison, 2 équipes se mettent en place, car dès la fin de la journée, l'assaut a été décidé. À 3h57, 2 charges explosives entrouvrent les 2 portes blindées qui isolent l'infirmerie. Devant la prison, le journaliste, photographe et caméraman se réveillent en sursaut. Postés devant les grilles, impatients, ils attendent les premiers éléments, les premières déclarations. Des ambulances et des cars de gendarmerie passent devant eux, puis une voiture s'arrête, enfin.
Comment ? Ils ont assassiné ma belle-sœur. C'est tout ce qu'elle a gagné. Ils l'ont assassiné, mère de 2 petits-enfants. Oh. Éventré. C'est une honte, la justice et le pénitencier de Clairvaux. On en entendra parler.
Après l'explosion, les 2 mutins résistent comme ils peuvent. Seuls des coups de crosse et la puissance du jet d'une lance à incendie permettent de les maîtriser. À côté d'eux, les forces de l'ordre découvrent les 2 otages. Sans vie, la gorge sectionnée et un long poignard artisanal de 14 cm de long et 3 cm de large. La prise d'otage est terminée, mais à quel prix ? On sort les corps, on place les 2 détenus en cellule, puis on ouvre les portes aux journalistes. Le directeur de la prison explique les raisons de l'assaut.
Dans le cadre de cette action agressive et cette criminalité nouvelle, il est évident qu'il n'est pas possible à l'administration, à la chancellerie, d'accepter les conditions de mutins qui se saisissent d'otages pour recouvrer la liberté.
Monsieur le directeur, vous avez pensé qu'il y avait moins de risques à laisser les prisonniers dans leurs cellules avec leurs otages que de leur donner des armes et une voiture ?
Ah, sûrement, parce que pour me souvenir des conditions dans lesquelles s'est terminée l'action d'Aix-en-Provence, c'était extrêmement grave. On ne peut pas leur donner des armes.
À 8 km de la maison d'arrêt, à Bayel, le père de Guy Girardeau, jeune surveillant de 28 ans, marié, père de 2 enfants, apprend la mort de son fils en allumant le poste de radio. Ce 22 septembre 1971, toute la France se réveille à Clairvaux, pleure la mort des 2 jeunes parents et hurle contre leurs assassins. Les raisons et les conditions de l'assaut, la vie et le parcours des mutins n'intéressent alors personne. Non, une seule question mobilise les esprits. Les assassins de Clairvaux doivent-ils être condamnés à mort ? Les funérailles des 2 victimes obtiennent une audience presque nationale. Devant l'entrée de l'église, entouré de micros et de caméras, René Pleven, garde des Sceaux à l'époque, prend la parole. Il salue la mémoire des deux victimes, affirme que l'assaut était la seule solution et promet un soutien aux gardiens dans leur tâche. Car après le choc, c'est la colère qui enflamme l'esprit des gardiens de prison. Et ils entament plusieurs rassemblements et débrayages dans toute la France. Dans une lettre publique, un directeur de prison, Ange Calisti, réclame même au président de la République la tête de Buffet et de Bontemps. Depuis l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou, aucune tête n'est tombée. Le drame de Clairvaux peut-il changer son opinion ? En réponse, lors d'une conférence de presse, le président évoque un fait divers qui illustre toute la difficulté du débat autour de la peine de mort et de la réclusion à vie.
D'abord, il n'y a pas de prison perpétuelle en France. Certes, il y a des condamnés à perpétuité. Mais l'expérience prouve que tous sont libérés environ 20 ans après leur condamnation. Quant à la remise dans la société, je vais vous raconter un fait divers. Il y a quelques années, une quinzaine d'années, un homme a tué sa femme. Il fut condamné à mort, gracié. Sa conduite en prison fut exemplaire, calme, doux, excellent à tous égards, au point que il sortait de prison, je crois, 12 ou 13 ans après sa condamnation. Et il épousait l'assistante sociale qui s'était occupée de lui en prison. Et jusqu'ici, nous sommes dans la comtesse de Ségur. Mais voici le drame. 2 ans après, il tuait sa nouvelle femme. Alors, monsieur, alors, bienheureux ceux qui résolvent les problèmes en 50 lignes.
Chaque jour, les pages de journaux sont noircies de faits divers, d'assassinats odieux, de familles meurtries. Il y a les pour, inconnus et célébrités qui se lient d'amitié avec la guillotine et déclarent leur foi en elle. Pour eux, comme par magie, elle serait l'ultime pare-feu, celle qui empêche le dernier geste de futurs assassins. Dans le camp d'en face, chez les contres, on souhaite l'enfermer à jamais dans les archives de l'histoire pénitentiaire. Ce débat, qui traverse alors l'opinion, a droit à un prime time de la première chaîne de télé. En effet, quelques jours après le drame de Clairvaux, une émission spéciale fait le procès de la peine de mort. Durant 1h30, comme à l'intérieur d'un tribunal, 2 avocats plaident. François Sada défend le maintien de la peine capitale. Émile Polak, lui, est pour son abolition. À l'aide de témoins, médecins, criminologues, chroniqueurs judiciaires, mais aussi de reportages, chacun tente de convaincre le jury de spectateurs présents sur place. François Sada projette par exemple ce micro-trottoir de chauffeur de taxi de nuit, victime depuis plusieurs mois d'agressions. Alors, sont-ils favorables à la peine de mort ?
Oui, monsieur, vous avez été attaqué ?
2 fois cette année.
Dans la même année ?
Cette année, au mois de janvier et au mois d'avril.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces agressions ?
Ben, je vois pas beaucoup.
La peine de mort ?
Prise sur le fait, si on est certain que le type a vraiment tué, n'est-ce pas ? Si toutes les preuves sont là, il n'y a pas à discuter.
Vous prenez des risques terribles,
non ? Oui, mais moi je suis pour la peine de mort, parce que quand on voit des petits saligots qui attaquent des collègues comme ils font pour leur piquer 170 fois ou 150 fois, moi j'estime qu'on devrait leur couper la tête aussi.
Pour l'assassin, l'agresseur, le voleur, coupons la tête, tout de suite, pour l'exemple. Oui, sauf que régulièrement, les cours d'assises jugent des assassins. Si la guillotine bannit la récidive, elle ne fait pas baisser le nombre de meurtres. Bref, elle n'est pas dissuasive. Les faits sont là, les faits le prouvent. Sans compter qu'avec elle, on prend toujours le risque d'exécuter un innocent. Ce sont ces questions fondamentales que pose par exemple le chroniqueur judiciaire le plus célèbre de la presse française, Frédéric Potcher.
Je veux dire un mot à
le dernier,
de
Frédéric
le
Potcher.
Le Souche, c'est le dernier mot à propos de l'effroyable tragédie qu'a vécu Monsieur Le Souche. Je ne voudrais pas qu'il pense que ça ne me fait absolument rien et que je plaide pour des gens qui ne valent pas la peine de vivre. Je voudrais lui dire simplement ceci, que je ne crois pas que l'assassin auquel il pense, je ne crois pas qu'en le guillotinant, ça améliorera quoi que ce soit de la situation dans laquelle il se trouve. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est affreux, c'est terrible. Moi, je voudrais que la peine de mort, je voudrais que la guillotine serve à quelque chose. Mais enfin, voyons, nous savons très bien qu'elle ne sert à rien, disons-le. Alors, comme il est tout de même assez dangereux de faire mourir un homme, alors je préfère qu'on supprime la guillotine.
Guy Le Souche, père d'un enfant de 11 ans qui a été assassiné, lui porte la controverse.
Il ne s'agit pas ici de l'assassin de mon fils. Il s'agit du fait suivant, qu'a d'ailleurs évoqué Maître Sarda, c'est que la peine à perpétuité n'existe pas et n'existera jamais.
Pourquoi ?
Et que le problème de la récidive existe et que vous ne pouvez pas le nier. Voici ici, dans un journal assez récent, le cas d'un homme qui a tué il y a 26 ans et qui a retué 26 ans après, qui a tué 26 ans avant et retué 26 ans après. Si cet homme, et je ne voudrais pas citer de cas récents, si cet homme avait été condamné à mort et exécuté, vous auriez eu sa première victime de morte, vous auriez eu la mort de cet homme que vous auriez ressenti sur votre conscience, vous, monsieur, mais ressentez-vous sur votre conscience la mort de la deuxième personne qui l'a tué? Vous n'y pensez pas, celle-là. Elle ne vous gêne pas, monsieur Potcher. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je me sens profondément écœuré.
À la fin de l'émission, le verdict des jurés sans appel, il se prononce pour le maintien de la peine de mort. 10 mois plus tard, lors du procès de Troyes, combien seront-ils à demander la mort de Buffet et de Bontemps ? Interpret signs and catalogue, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick bread that my hind. They are the sick bread that my hind. They are the sick bread that my hind. They are the sick bread gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say it seems so fitting in its way, he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. I tattooed evil across his brother's fist. That filthy five, they did nothing to resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, like a moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. And anyway, I never lied. My kill hand is called evil. Wears a wedding band that's good. 'Tis a long-suffering shackle, collaring all that rebel blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is a-burning. In a way I'm yearning to be done with all this measuring of truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. Troyes, 26 juin 1972. 4 avocats arrivent au palais de justice pour défendre Claude Buffet et Roger Bontemps, accusés d'avoir assassiné lors d'une prise d'otage dans la prison de Clairvaux l'infirmière Nicole Comte et le surveillant Guy Girardeau. Maître Thierry Lévy, notre invité d'aujourd'hui, Rémi Costre, se charge de Buffet. Philippe Lemaire et Robert Ballinter, eux, défendent Bontemps. Durant 3 jours, ils tenteront d'établir les faits, les raisons du drame, mais aussi d'éloigner la volonté de mort qui n'a pas abandonné les esprits contre ceux que la presse nomme toujours les assassins de Clairvaux. Pourtant, un seul des accusés peut revendiquer ce titre, Claude Buffet. Dès les premiers interrogatoires, il reconnaît avoir fait usage de son poignard une fois sur chaque otage. Le problème, c'est que Nicole Comte est morte à la suite d'une seconde blessure. Quand il parle la première fois lors de l'audience, les journalistes et jurés découvrent un homme froid, calme, précis, mais qui semble détaché des événements, presque immunisé face à l'horreur. Quand on lui présente l'arme en acier maculée de taches brunes, il ne baisse ni la tête, ni le regard. Sur les faits, il admet toujours un seul coup sur chaque victime. Mais alors, le second coup sur Madame Comte, c'est donc Bontemps, l'interroge le président. Buffet répond « Oui ». Pour les défenseurs de Roger Bontemps, tout l'enjeu est là. Il faut briser le jeu de miroir, le lien entre les deux hommes. À l'inverse de son complice, Roger Bontemps est refermé sur lui-même, les yeux plissés, les épaules contractées. Ses réponses sont courtes, maladroites, fragiles. Il semble perdu dans un malaise intérieur. Pour contrer cette sensation, son avocat, Maître Badinter, joue de ses talents pour faire émerger le doute auprès des jurés. Lors d'un interrogatoire, il presse son client de questions rapides et incisives. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il vu? Alors Bontemps lève la tête et redresse les épaules. L'avocat poursuit et lui demande d'un ton ferme « Mais enfin, avez-vous touché, Madame Comte ?»« Non, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas touché, répète-t-il. » Alors Badinter poursuit « Mais jurez, Bontemps, jurez-le » Bontemps se lève et hurle de toutes ses forces « Oui, je le jure !» L'échange a son effet. Le doute se lit désormais sur les visages des jurés et des journalistes. La vérité a été énoncée. Il faut désormais la prouver. Pour cela, les avocats de Bontemps mettent en avant deux éléments importants. Le couteau d'abord. À l'inverse de celui de son complice, on ne retrouve l'opinel de Bontemps qu'après l'assaut, dans sa poche, refermé et sans aucune trace de sang. A-t-il eu le temps de l'utiliser, de l'essuyer, puis de le refermer tout en tentant de repousser l'assaut des forces de l'ordre? De plus, ce couteau peut-il être celui qui a donné la mort à l'infirmière? Au troisième jour d'audience, après avoir donné la parole aux témoins et aux psychiatres, ce sont les experts qu'on sollicite. Lors d'un premier rapport, ils avaient écarté la possibilité que l'opinel de Bontemps ait été utilisé contre l'infirmière. Mais ce rapport avait été annulé et donc il était interdit aux avocats d'en parler. Le second rapport, lui, était plus interrogatif. À la barre, devant les jurés, le doute avait, semble-t-il, pris de l'épaisseur. Et on ne pouvait écarter de façon définitive que l'opinel de Bontemps pouvait être l'arme du crime contre l'infirmière. À la surprise générale et contre le règlement, Maître Badinter demande alors à l'expert s'il n'a pas procédé antérieurement à d'autres opérations qui auraient abouti à d'autres conclusions. L'avocat général l'interrompt alors, tout comme le président, pour lui rappeler le règlement. Mais Bontemps prend tout le monde de court. Il sort de sa poche un petit papier où il a inscrit les conclusions du premier rapport qu'il lit à haute voix. Alors, assassin complice, c'est dans les deux cas, mérite-t-il lui aussi la mort ? Voilà les questions auxquelles les jurés de Troyes doivent répondre, en leur âme et conscience. Dehors, la foule attend, de plus en plus nombreuse. Lors de cette dernière journée de procès, ils sont des dizaines à écouter dehors les derniers instants du procès, dont la plaidoirie de Robert Badinter, grâce à des haut-parleurs installés pour l'occasion.
Si Bontemps n'a pas porté de coup de couteau, à cet instant-là, la seule et pour moi, non valable, et pour beaucoup de conscience, non valable, excuse ou justification de la peine de mort, le vieux crime barbare du talion, le sang pour le sang, la mort pour la mort, se retourne. On ne peut pas condamner à mort un homme qui ne l'a pas donné, et on ne peut pas condamner à mort un homme qui n'a même pas, dans sa vie, commis un acte de violence réelle sur la personne humaine.
À Clairvaux, Buffet et Bontemps ont lié leur destin là où la justice avait décidé de les envoyer. Surveiller et punir, telles sont les missions de la prison. Mais a-t-elle les moyens d'imaginer pour ses détenus un avenir hors de ses murs? Condamné à perpétuité, Claude Buffet l'a déjà été 2 ans plus tôt pour le crime de Mme Bezimensky, et c'est en prison qu'il a tué de nouveau. À l'inverse de Bontemps, qui espère, lui, la prison? Buffet préfère la mort, comme il le demande au juré lors de sa dernière intervention.
Comme vous l'ont dit, mes avocats, Maître Thierry Lévy et Maître Cross, ont dit que je vous réclamerais la peine de mort. Je vous le confirme. Et vous me la donnerez. Mardi, quand j'ai quitté le palais de justice, dans les fourgons, la foule réclamait à mort fumier. Si elle savait qu'au fond, elle me rendait service.
Mesdames et messieurs, la cour.
À peine une heure de délibération et la cour revient. Le président énumère les différentes questions posées au jury. Bontemps est-il coupable d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, donné la mort à Madame Comte? Les jurés ont répondu non. Buffet a-t-il donné la mort à Madame Comte? Oui. Bontemps est-il complice de Buffet? Oui. Existe-t-il des circonstances atténuantes pour Bontemps? Non. Puis le président annonce le verdict.
En conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré en commun, à la majorité et sans désemparer, condamnent Buffet-Claude et Bontemps-Roger à la peine de mort.
Silence ! Silence ! Expulsez cet individu ! Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir ! C'est honteux !
Georges Pompidou était la dernière chance de Buffet de Bontemps. Le 27 novembre, il leur refuse la grâce. Le lendemain, sur la porte de la prison de la Santé, on peut lire sur une simple feuille « Ce 28 novembre 1972, Roger Bontemps et Claude Buffet ont été exécutés. Le premier à 5h13, le second à 5h20. » Depuis 1981, la guillotine n'est plus qu'un mauvais souvenir de notre histoire. Mais hier, comme aujourd'hui, nos prisons sont-elles adaptées pour assumer la perpétuité d'un condamné ?
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et d'après l'herbe noire accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort.
France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Buffet-Bontemps avec notre invité, Maître Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Thierry Lévy, merci d'être parmi nous. Car je le rappelle aux auditeurs, vous étiez l'un des deux avocats de Claude Buffet. Vous êtes l'auteur du livre intitulé « L'animal judiciaire ». Vous revenez sur cette affaire et vous avez également présidé de 2000 à 2004 l'Observatoire international des prisons. Une seule question personnelle, si je puis me permettre. Vous avez donc assisté à une exécution, une expérience évidemment très particulière. Peu de Français ont assisté à cela, ça n'est pas un privilège. Simplement, c'est votre métier qui vous a mis dans cette position-là. Est-ce que cette image, ce moment, vous a hanté, vous l'avez gardé longtemps en tête, ça revient quelquefois ?
Non, pas du tout.
Non.
Et vous avez très justement indiqué que nous n'avions pas assisté.
Oui, enfin, vous avez assisté au protocole, qui est terrible aussi.
L'hypocrisie, à l'époque, était poussée à un point tel que les avocats eux-mêmes et les magistrats, qui étaient également présents, ne pénétraient pas dans la cour de la maison d'arrêt de la Santé où était dressée la machine. Les condamnés franchissaient une porte voilée. Et toute cette petite bande, qui avait tous des têtes d'assassins, restait derrière la porte vitrée voilée. Ils n'ont donc pas assisté à l'exécution proprement dite. En revanche, vous l'avez raconté, l'ensemble des personnes qui se trouvaient là a pénétré dans le couloir où se trouvaient les deux cellules de Bontemps et de Buffet, et ils ont vu quelque chose que qu'il n'aurait pas dû voir et qu'aucun homme n'aurait dû voir à leur place, c'est-à-dire des gens qui se réveillent et qui comprennent en voyant d'autres visages que dans quelques instants, ils vont mourir.
Voilà. Alors, vous étiez l'avocat de Buffet à Clairvaux. Racontez-nous cet homme. Qui était-il? Alors, nous on l'a raconté, mais on ne l'a pas côtoyé. Vous l'avez côtoyé, vous avez pu voir sa psychologie, sonder sa psychologie. Qui était cet homme?
Alors, il avait un parcours de délinquance qui était assez banal. Il avait une enfance, comme beaucoup de gens qui connaissent la prison, qui avait été dure, un père brutal, qui l'incitait à voler pour compléter l'ordinaire. Il avait fait toutes sortes de métiers, et beaucoup de métiers dans les services à la personne. Il avait été domestique avec sa maîtresse, Marie-Antoine. Il avait, pendant plusieurs mois, servi un homme remarquable en Normandie qui s'appelait Augustin Normand. Et Augustin Normand avait pris sa défense, son parti. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour-propre, le sentiment de sa dignité, qui supportait très mal la servitude, et qui découvrait, avec l'affaire Bezimansky, que vous avez évoquée, la prison, et en particulier la prison de Clairvaux, qui était un lieu qui va fermer d'ailleurs dans quelques semaines, un lieu de réclusion, d'abandon de l'humanité et de torture. Torture qui avait été dénoncée d'ailleurs par un juge de l'application des peines. Et lorsque Buffet a pris en otage cette infirmière et ce gardien, il a très vite fait comprendre que son but était moins de s'évader que de témoigner. Il voulait qu'on sache de quelle manière on vivait quand on était reclus dans une centrale comme celle de Clairvaux.
Et est-ce que vous avez axé votre système de défense de Buffet là-dessus précisément? Parce qu'au départ, c'est compliqué de défendre Buffet. Est-ce que votre système, c'était d'attaquer la prison pour défendre Buffet?
Parce qu'en fait, Buffet, cette affaire, il n'y avait pas de système de défense. Il y avait un homme qui n'était plus attaché à la vie, qui savait qu'il allait être condamné à mort, et qui souhaitait avant tout que son procès soit l'occasion de dénoncer les longues peines. Il était devenu ami avec Roger Bontemps. Roger Bontemps avait été condamné, vous l'avez dit, à 20 ans de réclusion.
Pour pas grand-chose, enfin pour
pour un vol d'une petite somme d'argent, mais avec une arme qui était factice. C'était un pistolet acheté dans un magasin de jouets. Et Bontemps était condamné à 20 ans de réclusion. Et Buffet, qui purgeait une peine perpétuelle, avait très bien compris en arrivant à Clairvaux qu'il n'en sortirait pas avant de très longues années et qu'il n'en sortirait pas indemne physiquement et moralement. Le témoignage de Charlie Bauer que nous avons entendu est à cet égard très éclairant, et je rappelle que c'était aussi l'opinion des magistrats de l'époque. Donc, pour Buffet, le procès était le procès de la prison, beaucoup plus que de la peine de mort. Et c'était quelque chose qu'il avait fait comprendre à ses avocats, et que je crois avoir compris.
Eh oui, c'est effectivement une position tout à fait étonnante de la part de Buffet. Voilà quelqu'un qui va être condamné à mort, mais qui demande finalement à être condamné à mort pour ne pas être condamné à vivre à Clairvaux. Hein. On va entendre, quand il réclame la mort, Il la demande à nouveau dans une lettre envoyée au président de la République et on se propose d'écouter un extrait de cette lettre.
Monsieur le président de la République française, Élysée, Paris. Monsieur le président, la question, dit-on, de l'abolition de la peine de mort est encore à l'étude dans notre pays. Je viens vous supplier, monsieur le président, de ne pas abolir la peine de mort pour moi, Claude Buffet, et vous supplie également de ne pas m'accorder votre grâce. Car je puis vous dire que je suis un homme extrêmement dangereux pour la vie des autres. 18 janvier 67, je tue une femme. 22 septembre 1971, je tue une autre femme et un homme. Si je n'obtiens pas la mort, je récidiverai à nouveau, et cela j'en donne ma parole d'honneur. Les heures me semblent longues en ce moment. Comprenez que maintenant, les ponts sont rompus avec ma vie, alors ayez la pitié de ma dernière volonté, laissez-moi maître de ma mort, car en ce petit matin à l'aube, la mort ne me fera pas souffrir longtemps, car elle frappera vite et fort. Or, je ne veux pas souffrir tout le long du restant de mon existence dans une prison. Je souffre de cette situation misérable.
Maître Lévy, comment on travaille quand on est avocat face à un client comme lui qui dit cela ?
Mais la question ne se posait pas dans ces termes. Il y avait dans la situation qu'avaient vécu ces deux hommes quelque chose de tellement évident et puissant qu'on ne pouvait pas ne pas être porté par l'élan qui a accompagné ce procès, au cours duquel beaucoup de détenus de Clairvaux ont été entendus. L'accent a été mis sur les conditions de vie dans cette prison. La manière dont la prise d'otage a été traitée a été mise en évidence. Il faut rappeler que Henri Lecorneau, et non pas le teneur, qui était le directeur de l'administration pénitentiaire de l'époque, avait conduit les négociations par le téléphone intérieur avec Buffet et Bontemps, et elles avaient duré toute la journée, une grande partie de la nuit, et les derniers mots de Lecorneau avaient été très apaisants. Il avait annoncé à Buffet et à Bontemps que le lendemain matin, avec le jour, on trouverait une solution, et il lui avait souhaité bonne nuit. Il y avait donc de la part de l'administration pénitentiaire toute une organisation de stratagèmes destinés à endormir par la fatigue les deux détenus, en leur faisant espérer une libération qui, comme vous l'avez rappelé, n'a pas été envisagée. Et ce mensonge de l'administration, qui a joué un très grand rôle dans la commission des crimes, je vous entendais dire que les deux hommes avaient sur la conscience la mort d'une femme et d'un homme. Certes, ils étaient les agents actifs de cette mort, mais l'avaient-ils sur la conscience ou bien étaient-ils les seuls à l'avoir sur la conscience ?
Ça veut dire, est-ce que l'administration pénitentiaire, avec l'assaut ?
Donnant l'assaut après avoir menti pendant toute la durée des négociations, en faisant croire qu'une solution allait être dégagée, après avoir refusé l'intervention des avocats de Claude Buffet. J'avais téléphoné, j'avais sollicité, j'avais demandé qu'on me permette d'entrer en relation avec Buffet, que je connaissais puisque je l'avais défendu, devant la cour d'assises de Paris.
Pour la première affaire.
Dans la première affaire. Et ça avait été refusé. L'administration pénitentiaire a une lourde responsabilité dans cette histoire. Une responsabilité qu'elle n'a jamais reconnue, qu'elle ne reconnaîtra jamais, mais que l'on voit à l'œuvre dans la manière dont s'exécutent encore aujourd'hui les peines d'emprisonnement de longue durée. Tout à l'heure, nous entendions l'ancien chef de l'État, Georges Pompidou, qui n'avait pas plus de conscience que les autres, puisqu'il était engagé personnellement dans le combat contre la peine de mort et qu'il a cédé devant la pression des gardiens de prison. Mmh. On a entendu Georges Pompidou dire que la quasi-totalité des détenus condamnés à perpétuité sortaient au bout de 20 ans. Il y a actuellement en prison en France deux hommes qui sont à leur 40e année d'incarcération. Et la durée de la détention et de la réclusion après l'abolition de la peine de mort n'a pas cessé d'augmenter. C'est-à-dire que la peine de mort a été abolie. C'est évidemment un progrès.
Et puis l'affaire est entendue.
Ça ne fait aucun doute.
Ouais.
Mais après l'abolition de la peine de mort, alors qu'on pouvait espérer que le regard sur la réclusion changerait, non seulement il n'a pas changé, mais il est devenu plus aveugle, plus étroit, et aujourd'hui, la manière dont on exécute les longues peines est pire encore qu'en 1970.
Ouais, en termes de délai,
En termes de durée, en termes de refus de libération conditionnelle, et en termes également de conditions de détention. Bien sûr, Clairvaux va disparaître. Clairvaux n'était d'ailleurs pas du tout conçu à l'origine comme une prison, c'est une abbaye. C'est une abbaye cistercienne dans laquelle vivaient des moines qui avaient choisi l'austérité. Et on imposait aux détenus, non pas l'austérité, mais la cruauté de la vie quotidienne. Ils vivaient à côté des surveillants qui étaient habitués à manier la menace, les coups et parfois même les armes. Et ils ont vécu dans des conditions très dures.
À ce propos d'ailleurs, on va écouter une deuxième archive, une deuxième et dernière archive ensemble. En 2006, dans le journal Libération, un appel est publié par 10 condamnés à la prison à vie, à Clairvaux, qui demandent d'ailleurs le rétablissement de la peine de mort tellement ils n'en peuvent plus. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage de France 2 sur le sujet, avec l'interview précisément d'un ancien détenu.
L'appel a résonné bien au-delà des murs d'enceinte de la centrale. L'appel de 10 détenus de Clairvaux, condamnés à perpétuité pour des faits de grand banditisme, meurtre ou encore viol. Dans une pétition, ils réclament pour eux le rétablissement de la peine de mort pour mettre fin, disent-ils, à l'hypocrisie.
À choisir à notre mort lente programmée, nous demandons à l'État français, chantre des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment pour nous tous la peine de mort effective.
La centrale de Clairvaux, l'une des 5 prisons les plus sécurisées de France, exclusivement réservée aux détenus condamnés à plus de 15 ans de détention, ceux réputés les plus dangereux.
Dans 9 mètres carrés, on doit mettre tout un appartement, si on peut dire, c'est-à-dire les toilettes, qui sont à 2 mètres du lit, c'est-à-dire on dort avec les toilettes, carrément la tête dans les chiottes, quoi, si je peux dire. Quand on marche dans la cellule, parce qu'on essaie de marcher pour ne pas rester tout le temps inactif, on compte les carreaux qu'il y a au sol. Et on les connaît tous, un par un, quoi, il n'y a aucun problème. Tous les jours sont identiques, au point d'ailleurs qu'on n'arrive plus à savoir quel jour on est, même ni quelle semaine, parfois quel mois. Il n'y a pas de vie après ça. Il n'y a pas de vie pendant ça. Tout est fait pour que petit à petit, les personnes qui sont là-bas s'éteignent.
Alors, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, puisque la société doit apporter une réponse au délit, au crime? On est absolument d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On rénove le système carcéral? On... Pas seulement la rénovation des locaux d'ailleurs, mais on a une autre approche de la réponse carcérale. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand même étrange qu'une démocratie comme la France, quand même une démocratie aboutie, ait un tel problème avec ses prisons. Hein, parce que parmi les démocraties, nous sommes, je crois, un pays qui a vraiment, qui connaît de vrais problèmes avec ses prisons.
La France n'est pas le seul pays.
Non, pas le seul, mais l'on connaît.
Où le système pénitentiaire est dur. Mais c'est probablement l'un des plus durs. Et il y a, dans l'opinion, depuis toujours, une méconnaissance complète de la réalité de la vie en prison. Et le choix de la longue peine, qui a été fait après l'abolition de la peine de mort, par l'homme qui avait d'ailleurs obtenu, fait voter l'abolition de la peine de mort, le choix de la longue peine répondait à un besoin exprimé par l'opinion de remplacer la peine de mort par une peine équivalente. aujourd'hui encore, beaucoup de détenus pourraient signer la pétition que nous avons entendue.
Ça veut dire que les conditions de vie extrêmes qu'on a entendues, ça existe encore ici et là.
Mais bien sûr. Et la durée de la réclusion qui a augmenté depuis est incompatible avec les buts déclarés de la prison. Mais il faut également comprendre que la prison qui a été conçue à l'origine comme une peine destinée à ramener le condamné dans la société après l'avoir amendé, n'a jamais atteint cet objectif. Et c'est une peine qui fait souffrir. Et il faut admettre également que l'opinion qui n'est pas consciente de ce que l'on vit en prison est très satisfaite de savoir que l'on y souffre. Car la majorité de l'opinion, en présence du crime, a une réaction immédiate et qui est de vouloir infliger à l'auteur du crime une souffrance. C'est ce goût de la souffrance qui explique qu'aujourd'hui encore, plus de 30 ans après l'abolition de la peine de mort, on puisse déplorer dans les prisons un régime aussi dur.
Est-ce qu'il y a des prisons quand même, en France, parmi les nouvelles prisons dites modèles, par ceux qui les construisent, je ne sais pas si elles sont modèles, mais il y a quand même des prisons où c'est plus vivable en France que dans d'autres prisons. Est-ce qu'il y a eu quand même des progrès?
Alors, pour ma part, je considère qu'il ne peut pas y avoir de progrès en prison. Ce qui s'est passé, c'est que dans les prisons en France, des droits qui n'existaient pas ont été instaurés. Notamment le droit de contester certaines décisions, le droit de rencontrer des membres de la famille dans des conditions plus agréables. On a admis que le détenu ne perdait pas tous ses droits après la condamnation. Mais on s'est aperçu que le droit derrière les murs n'avait pas la même signification que le droit en liberté. En réalité, c'est une façade. Ce sont des droits Potemkin. Un droit qui s'exerce dans un zoo n'est pas un droit. De sorte que les améliorations auxquelles on a assisté sur le terrain des droits, et même sur le fonctionnement interne, avec ces prisons neuves, modernes, fonctionnant à l'électricité, comme on le voit au Canada, où on jouit à l'intérieur de la possibilité d'aller et venir à l'intérieur des murs, ce système n'améliore pas une institution qui est condamnée.
Thierry Lévy, ce sera notre dernier mot, parce que l'heure tourne, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, au revoir.